Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois un monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello.
Salut. Salut. Bonsoir.
La vengeance est un plat qui se mange froid, comme le disait si justement la cantatrice philosophe. La vengeance est un plat qui se mange froid et tu vas te glacer les doigts.
Il ne regarde que Sophie en espérant qu'elle a la ref.
Appétit.
Elle ne l'a visiblement pas.
Attends, je connais ça.
Bah, c'est Axel Red. Farmer.
De prendre tes jambes à ton cou,
non, c'est pas
vite avant que je te le torde. Ce qui ressemblerait encore beaucoup à de la miséricorde.
Edith Piaf.
C'est Lio.
Merci.
Ah,
j'ai pas du tout touché Google.
Il l'a chazamé tellement il chante bien. Il l'a retrouvé direct. Wow.
Fallait pas commencer.
Ouais, ouais. Exactement. Pardon, Nico, t'es vieux.
Qui sait si Park Chan-wook s'est inspiré de cette chanson pour écrire cette vengeance.
Mais gros fan de Lio, tout le monde le sait. Hein.
Dont ce vieux mec est l'opus central. Old Boy de Park Chan-wook avec Choi Min-sik et Yoo Ji-tae qui ressort en salle. Grand Prix Cannes 2004 sous la présidence, est-ce vraiment un hasard, de Quentin Tarantino.
Quentin.
Oui, qui a dit qu'il était passé à une voix ou à deux voix, c'est ça, de le filer à Michael Moore pour Fahrenheit 9-1-1.
Alors, c'est la version officielle.
Ah, c'est quoi,
la version officieuse, c'est que Tarantino s'est pris un gros coup de pression de la part d'Harvey Weinstein qui distribuait Fahrenheit 9-11, qui lui aurait dit genre, bah en fait, j'ai fait ta carrière, donc tu vas me filer la Palme d'Or. Et que du coup, il aurait filé la Palme d'Or à Fahrenheit.
D'accord.
Sans
c'est
quoi,
ce que raconte la légende.
Sans quoi, elle serait certainement partie à Old Boy.
Alors, c'est toujours la faute d'Harvey Weinstein.
Alors, oui.
En effet, comme d'habitude pour nos mardis histoire du cinéma, on va peut-être faire un retour sur carrière. Rembobinons donc le film de la carrière de Park Chan-wook avec vous, Simon Ria.
Oh. Avant de
je sais pas pourquoi.
Je sais pas, c'est tonton qui m'inspira. Avant de donner la parole à Arthur, il faut revenir un petit peu, faut prolonger ce que tu as dit avec Quentin Tarantino, parce que il y a quand même un truc qui n'arrive pas tous les jours à Cannes, même si bien sûr entre cinéphiles ou adorateurs de tel artiste, on peut se dire ah oui, ce grand prix, il était vraiment exceptionnel cette année-là. Oh, ce prix du jury, il a marqué l'histoire, gna gna gna. Le fait est qu'en général, toutes les palmes d'or n'arrivent déjà pas à marquer l'histoire et donc seuls quelques palmes, tout simplement inscrivent en lettres de feu le nom d'un réalisateur au Panthéon, au Valhalla du cinématographe. Bref, tout ça pour dire ce qui s'est passé cette année-là, c'est que c'est pas la Palme d'Or qui a été la Palme d'Or, c'était bien Old Boy. C'est-à-dire que c'est Old Boy qui est resté dans les mémoires comme le film de cette édition, et c'est le film qui aura été influent cette année-là, parce que, bien sûr, encore une fois, les cinéphiles, les curieux, les amateurs connaissaient déjà et le cinéma coréen et Park Chan-wook. Néanmoins, c'est grâce à cette rencontre-là entre, on va dire, l'influence de Tarantino et la réception de Old Boy que va, non pas naître, mais donc se démultiplier en France, un public pour le cinéma coréen. Public qui ne va pas tout de suite être le grand public, on est bien loin du succès de Parasite, mais il n'empêche. Tout à coup, ces sphères cinéphiles vont s'élargir, voire même exploser, et l'image du cinéma coréen va radicalement changer. Et il y a une première génération de cinéphiles qui va devenir extrêmement curieux et boulimique. Et si aujourd'hui, dites-vous, voilà, celles et ceux qui sont parmi les plus jeunes à nous écouter, si aujourd'hui vous avez des séries coréennes sur les différents services de streaming, que vous en avez assez varié en un certain nombre, des fois des très grands publics, des fois des plus pointus. S'il y a autant de films coréens qui sortent en France, et si finalement, on va dire, en France, il y a une telle appétence pour cette cinématographie-là, c'est en très, très, très grande partie grâce à Oldboy. C'est vraiment Oldboy qui a ouvert une brèche qui était infinitésimale, enfin, ou qui était beaucoup plus réduite avant sa sortie. Et alors, ça a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour Park Chan-wook, parce que...
Tu veux dire que c'est à cause de lui qu'on a Aung San-Suu ?
Peut-être.
Et merde.
Alors, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour Park Chan-wook, parce que, évidemment, du jour au lendemain, il devient un cinéaste scruté, voire adoré, parce que ça a été un film, un succès d'adolescent aussi, hein, il faut le dire, Oldboy. Moi, j'avais, je pense, 17 ans quand il est sorti, et on était plein, entre 14 et 20 ans, jeunes, quoi, à découvrir ce cinéma-là, et à le recevoir comme un stimuli surpuissant, quoi. Et donc, Park Chan-wook, il va surtout être appréhendé, pendant quelques années, bien sûr, Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux, mais être appréhendé un peu à l'aune d'Oldboy. Et donc, quand bien il va encore faire des propositions passionnantes juste après, des films comme Lady Vengeance, ou Sympathy for Mr. Vengeance, qui a été redécouvert en France après Oldboy, même si c'est un film antérieur, ou tout simplement des films comme Thirst, je pense notamment, ont été reçus avec, on va dire, une relative tiédeur, parce que c'était pas Oldboy, et que tout le monde s'attendait à la même forme de virtuosité, à la même rage, encore une fois, presque adolescente, qu'il y a dans le film, quand même ces personnages ne sont pas adolescents, alors que le cinéma de Park Chan-wook est beaucoup plus varié, beaucoup plus fin aussi, souvent érotore, que ne peut l'être Oldboy, qui est peut-être, on y reviendra, et ça n'est pas nécessairement négatif, son film le plus bourrin, quoi, le plus direct, le plus frontal.
Indiscutablement.
Et par conséquent, voilà, ça a été à la fois la bénédiction de Park Chan-wook, qui est devenu instantanément un réalisateur culte, et un peu sa malédiction, parce qu'il a fallu du coup un peu de temps pour le redécouvrir après Oldboy, au moins jusqu'à Mademoiselle.
Bah, ce qui est intéressant, en tout cas, si on retrace un petit peu le parcours de Park Chan-wook au départ, c'est que, souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous parlais d'un documentaire sorti sur Netflix qui s'appelait Yellow Door, qui racontait comment un groupe de jeunes étudiants, à la fin des années 80, au début des années 90, avait créé une espèce de club de cinéphiles à un moment où l'accès au cinéma en Corée était compliqué, et comment ils se faisaient des copies de VHS pirates pour découvrir Godard, Hitchcock et autres. Dans le lot, il y avait un certain Bong Joon-ho. Et bien, figurez-vous que Park Chan-wook, né en 63, et quand il a la vingtaine, qu'il étudie la philo à Sogang et qu'il est donc dans les années 80, il va pareil. Il va créer un groupe qu'on va appeler les Sogang Film Community avec d'autres cinéphiles de la bande, et ils vont découvrir des films comme ça. Et lui, il raconte volontiers en interview à quel point c'est la découverte de Hitchcock qui va lui donner envie de creuser le sillon de la cinéphilie. Il a un parcours qui est assez intéressant dans le sens où il commence dans le milieu du cinéma, il fait 2-3 jobs et tout machin, puis il réalise un premier long, The Moon is the Sun's Dream, que littéralement personne n'a vu, puisque c'était non seulement un four, mais en plus très peu distribué. Et de manière générale, de toute façon, on en parlera, mais Park Chan-wook a été distribué pour la première fois en France avec Sympathy for Mr. Vengeance. Avant ça, on n'avait eu aucun de ses films en France. Et donc, suite à ce premier film, eh ben, il redevient critique. Et il va écrire plusieurs critiques, il va même écrire un recueil de critiques avant de redenter sa chance avec un deuxième long qui ne va pas marcher. Et il va revenir un peu sur le côté avant de faire son troisième long qui là va être un grand succès en Corée, qui est Joint Security Area, qui est à l'époque un projet le plus casse-gueule du monde.
Qui est souvent appelé JSA. Pour
oui,
ceux
pardon,
qui chercheraient tout de suite à se renseigner.
JSA, je ne sais pas. Qui est le projet le plus casse-gueule de la Terre, puisque c'est l'histoire d'un meurtre entre 4 soldats à la frontière, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et on envoie donc une émissaire de Suisse, si je ne me trompe pas, de l'ONU.
Bah, il faut des gens neutres, donc dans ce cas-là,
il
n'y
en a pas 800. Il n'y en a pas 800 des neutres. Et c'est une enquête, et c'est donc un film qui est évidemment politique, qui est à l'époque un énorme budget, qui parle quand même d'un sujet très sensible à l'instant où l'on en parle, puisque c'est un moment où les tensions s'apaisent en Corée, mais on n'est pas à l'abri d'une dinguerie quand même. C'est aussi à peu près au même moment qu'un certain Bong Joon-ho va faire Memories of Murder, qui est pareil, un film énorme en termes de budget, de ce que ça représente, de succès populaire. Et donc c'est là que émerge vraiment ce qu'on appellera, nous pauvres cinéphiles qui avons découvert ça sur le tard entre guillemets, le renouveau du cinéma coréen des années 2000. C'est cette bande-là avec Kim Ji-woon, le trio un peu qui va populariser le cinéma coréen à l'étranger. Vous savez, quand on vous dit le cinéma coréen, c'est super, j'ai jamais vu ça, c'est un mélange des genres. Ben voilà, JSA, c'est exactement ça. C'est un thriller qui est en même temps parfois très drôle, en même temps parfois très triste, en même temps parfois vraiment flippant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Park Chan-wook, derrière, il va aller creuser le sillon d'un biais très particulier. Je vous disais tout à l'heure qu'il était fan de Hitchcock, et ben ça tombe bien, il va essayer d'épuiser dans le vrai polar slash film d'action, thriller, qui appellera la trilogie de la vengeance, qui commence donc avec un certain Sympathy for Mr. Vengeance, qui se conclura par Lady Vengeance. Tout ça, c'est sur en 3 ans, hein, pas plus.
2002-2005.
Voilà, sur 3 ans, pas plus. Sauf qu'au milieu, bah, y a Oldboy. Oldboy, qui au passage, et aussi il faut le rappeler parce que ça aura son importance, qu'on va en parler dans profondeur, est une adaptation d'un manga. Et il y a certains moments où les plans, c'est case par case, la même chose que ce qu'avait fait Monsieur Tsuchiya.
Et donc peut-être qu'on peut revenir sur le film en tant que tel, ou est-ce que Simon, tu veux dire un mot sur Sympathy for Mr. Vengeance pour commencer, ou est-ce qu'on attaque Oldboy? Non, peut-être un mot sur le premier opus de la trilogie.
Oui, moi j'encourage. Il me semble que c'est peut-être le film qui a été le moins visionné des trois, tout simplement parce qu'il arrive avant Oldboy, qu'il fallait le redécouvrir, puis qu'après il y a eu Lady Vengeance. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que de loin, c'est le moins visionné des trois. Je pense que c'est le plus virtuose de la trilogie. Mmh. C'est aussi le plus intéressant à mon sens parce que tout en étant un film déjà extrêmement mis en scène, extrêmement stylisé, c'est néanmoins un des films les plus secs, les plus à l'os de son auteur, celui dans lequel, même s'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, la caméra n'essaye jamais de sur-illustrer, la mise en scène n'essaye jamais de sur-illustrer les sentiments, mais bien de les laisser exploser plein cadre. Enfin, c'est un truc assez dingo. Et en plus, je trouve que des trois, c'est peut-être le film qui développe le regard peut-être à la fois le plus nihiliste et le plus nuancé sur l'idée et le concept de vengeance. Et je trouve que la manière dont il va retourner plus ou moins à mi-parcours ou aux deux tiers du film, bah, le concept de vengeance dans son film est assez assez remarquable. Et le film en plus réussit à parler un petit peu de la déshérence et de des problématiques sociales coréennes, pas exactement de la même manière que celle qui va être dominante dans les années qui vont suivre et un peu jusqu'à aujourd'hui, où tout simplement que vous regardiez un film catastrophe, un film d'action, un polar, un film de gangster ou un film d'horreur, il y a souvent un pan social et une dénonciation assez systématique ou systémique de la violence sociale, notamment au travail, qui a lieu dans la société coréenne. Ici, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il arrive à retourner à travailler la mélancolie et la souffrance de différentes classes sociales et pas simplement les opposer, ce que je trouve assez intéressant et assez retors quand on voit comment se termine le film. Bref, Sympathy for Mr. Vengeance, c'est un premier épisode absolument remarquable et c'est peut-être un des meilleurs films de son auteur.
Et alors, si on attaque Oldboy, précisément, Alexis?
Bah écoute, moi, ce que je trouve intéressant avec Oldboy, déjà, je précise que je suis pas un connaisseur expert du cinéma sud-coréen, ni de la carrière de Park Chan-wook, il manque encore pas mal de ses films. Les deux premiers films sud-coréens que j'ai vus, c'était pendant ma première année d'études cinématographiques, c'était justement Sympathy for Mr. Vengeance et Oldboy, parce que j'avais beaucoup entendu parler, évidemment, d'Oldboy, parce que c'est le film le plus connu des trois, mais de manière générale, de la trilogie de la vengeance, comme de quelque chose qui avait vraiment transformé le rapport qu'entretenait le public occidental avec le cinéma sud-coréen. Vraiment un moment où il s'était passé quelque chose d'assez fort esthétiquement parlant, et je me suis donc maté les trois films en un week-end, je crois. Et ce que je trouve super intéressant avec Oldboy, et je pense que c'est une première piste pour les gens qui nous écoutent qui n'ont peut-être pas encore vu le film, des trois, Oldboy est à mon sens celui qui est le plus ouvertement tourné vers la culture populaire. Déjà, tu l'as dit Arthur, il est adapté d'un manga. Bah, de fait, il y a énormément d'éléments dans le film qui, de manière générale, hein, font appel à la culture populaire nippone, et pas qu'au manga, aussi aux jeux vidéo. Il y a cette fameuse scène de baston filmée en plan séquence de côté qui en fait est une reproduction cinématographique exactement fidèle de ce qu'on pouvait trouver sur les bornes d'arcade avec les jeux de combat en scrolling dans le couloir. Voilà. Donc il y a des éléments comme ça, purement visuels, purement sensoriels, qui vont forcément toucher un public très large parce que ça fait appel à des éléments qui sont dans notre culture populaire. Et en même temps, je me souviens à l'époque avoir été interloqué par la dureté, l'âpreté et la violence du film, qui n'est pas une violence fun. On n'est pas dans un film de baston décomplexé ou dans un film de vengeance décomplexé comme on peut le trouver chez Tarantino. Il y a quelque chose de très jouissif dans Kill Bill, par exemple, à voir Uma Thurman déglinguer des dizaines de gars. Ce n'est pas du tout le cas dans Oldboy. Les touches de violence, déjà, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Le film n'est pas un bain de sang permanent. Il y a des scènes de violence qui sont très crues, qui sont très frontales et qui sont même un peu traumatisantes pour certaines. Mais c'est surtout un film qui a une noirceur psychologique qui rend son visionnage un peu éprouvant. C'est ça que je trouve déjà super intéressant dans le film. Tu t'en as parlé aussi, Arthur, le cinéma sud-coréen, c'est un cinéma qui obéit plus ou moins au même code que les nôtres, mais qui ne les manipule pas de la même manière. Il y a énormément du cinéma populaire américain qui a infusé dans le cinéma sud-coréen. Par contre, ils ne vont pas utiliser les codes des genres qu'ils adaptent de la même façon. Ils vont injecter plus facilement de l'humour, du décalage, de l'absurde dans des récits, dans des films où nous autres occidentaux, on se serait senti peut-être un petit peu trop timide et un peu trop mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et eux sont beaucoup plus décomplexés. Et je trouve que ce qui est fascinant avec Oldboy, c'est que, à mon sens, c'est plus qu'un mélange des genres. C'est un film qui est à la fois tous les genres et aucun genre à la fois. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à les catégoriser. Et à l'époque, je me souviens, en enchaînant coup sur coup Sympathy for Mr. Vengeance et Oldboy, m'être dit, bon bah Sympathy for Mr. Vengeance, je peux identifier à peu près ce que c'est un polar vengeur assez, assez direct, assez froid, avec pareil, des sursauts de violence, dont un qui implique des tendons d'Achille particulièrement crades, Et il y a une autre scène d'ailleurs dans un film de Kim Ji-won qui implique des talons d'Achille tout aussi crado. Old Boy, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus fluide, à tel point que le film peut, je pense, désarçonner facilement des gens qui seraient un peu néophytes et qui connaissent pas très très bien ces codes-là. Moi, ça a été mon cas à l'époque. J'ai aimé le film, mais il m'a fallu un deuxième visionnage pour comprendre pourquoi je l'aimais et pour m'habituer à sa tonalité, parce que vraiment, je trouve que c'est un film qui a une tonalité très particulière.
Sophie ?
Moi, j'ai un rapport un tout petit peu particulier au film parce que ça a été, comme beaucoup, un de mes films préférés à l'adolescence. Et pas pour rien, parce que je pense que le film a eu un impact culturel beaucoup plus grand que ce qu'on pouvait imaginer. Je pense déjà qu'il a été importé, en tout cas dans mes petits cercles, je vais dire, de cinéphiles provinciaux de l'adolescence. Non pas par un amour de la culture coréenne de base, mais juste par une appétence pour le cinéma asiatique. Je pense que avant, le cinéma japonais était plus accessible et plus connu en France que le cinéma coréen. Et je pense, sans mentir, avoir découvert Old Boy avec les mêmes potes avec qui j'avais découvert quelques années plus tôt Battle Royale. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de violence asiatique, un peu décomplexée, assez gore, qui changeait de notre cinéma d'horreur américain pop-corn et sur quelque chose d'un peu décalé, parce que des films comme Battle Royale ou Old Boy ne sont pas non plus complètement dénués de légèreté, par exemple. Et c'est là que il y a tout mon amour nostalgique pour le film et en même temps ma limite, parce que je ne peux pas m'empêcher d'associer Old Boy à quelque chose de très très masculin, parce que Old Boy, c'est pas simplement le film que j'ai aimé de moi-même, mais que j'ai aimé aussi pour rentrer dans une classe sociale de garçons qui aimaient le cinéma violent. C'est-à-dire que ça a été ma porte d'entrée pour dire, mais si, vous savez, regardez, je suis légitime, j'aime Old Boy. Et ce qui a été, moi, un pan de ma cinéphilie et de ma définition cinéphile qui est, j'aime aussi le cinéma pour garçons. Et parce qu'à l'époque, Old Boy était, on va pas se mentir, majoritairement réservé aux adolescents. En tout cas, dans un certain cercle, à un moment, soit cinéphile très pointu qui avait vu le film à Cannes, soit les mêmes ados qui adoraient le cinéma de Tarantino.
Mais qui adoraient le cinéma de Tarantino, qui voulaient voir les films que recommandait Tarantino. Beaucoup de ces gens ont dû se crever les yeux pour s'en remettre après en avoir vu plusieurs. Parce qu'en général, quand Tarantino recommande un film, ça finit mal. Mais le plus souvent. Mais oui, tu as raison, effectivement. Et c'était incroyable, ces films extrêmes qui nous viennent d'Asie, qui sont complètement fous, etc. Moi, je me souviens très bien de gens de mon âge, ouais, c'est ça, qui avaient 17 ans. À l'époque, j'étais pas encore à Clermont, je crois. Je devais être à Cône-sur-Loire et qui me disait, waouh, tu vas voir, c'est encore plus fou que Kitano. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Mais tu vois, il y avait ce genre de rapport, effectivement. Ouais. Moi, j'ai connu les mêmes choses que toi, ouais.
Et pour parler, en tout cas, de Park Chan-wook en général, j'ai l'impression que, même si vous en avez dit un mot, la trilogie de la vengeance a quand même des rapports différents entre chaque film. Il y en a qui sont plus sombres, voilà. Mais pour moi, c'est peut-être le côté le plus, j'ai envie de dire, adolescent de sa filmographie. Sans doute le plus accessible d'une certaine manière. Moi, personnellement, j'ai tendance à aimer un peu plus son cinéma de la maturité que je vais considérer. Déjà, pour moi, il y a un premier tournant avec Thirst, étonnamment, parce qu'il peut être aussi assez accessible pour les ados. Mais il y a déjà il adapte Thérèse Raquin, donc on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus exigeant, mature. Et pour moi, son apogée, c'est Mademoiselle. Et on fera pas mieux que Mademoiselle, parce que pour moi, là, il a vraiment condensé complètement son rapport très viscéral, parce que pour moi, ce qui a plu aux ados dans All Boy, c'est le côté viscéral. C'est-à-dire que ce gros plan, et la caméra l'accompagne complètement, ce gros plan sur la dent qui éclate, qui est devenu un plan iconique, c'est quelque chose de très adolescent. C'est quelque chose de, on va te faire ressentir quelque chose d'instantané, peu importe que tu aies les codes de cinéma ou pas, et ça va t'impacter directement. Mademoiselle, il va garder cette sensorialité, tout en amenant un discours, pour moi, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus élevé. Mais bon, c'est mon avis.
Simon, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait raconter, parce que là, on part du principe que tout le monde a vu Old Boy, mais personne n'a raconté le cœur de l'histoire, à savoir que ça part d'un enlèvement.
C'est un monsieur, un jour, il est dans la rue, c'est la nuit, il pleut, on le kidnappe, il se réveille dans une prison privée, je veux dire, qui n'est pas gérée par l'État, quoi, qui est une entreprise à but lucratif. Même simplement, dans cette prison, quand vous avez envie de vous débarrasser de quelqu'un, pour 2 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, à perpétuité, vous payez un forfait, vous faites enfermer cette personne en toute discrétion dans cette prison. Et lui va y passer, si ma mémoire est bonne, 15 ans.
C'est ça, exactement.
15 ans, mais il ne sait pas par qui il a été enfermé, qui se venge de quoi, qui lui veut du tort. Puis au bout de 15 ans, il est libéré et il se dit, oh, quand même, j'aimerais bien savoir pourquoi on m'a un peu niqué ma vie.
Heureusement, j'ai mangé les mêmes raviolis pendant 15 ans.
Voilà, et donc va s'en suivre une investigation qui forcément est une enquête, mais est une enquête sur soi, c'est une introspection, parce qu'il y a bien une raison pour que quelqu'un ait ses grands morts contre lui comme ça. Et là, moi, c'est ça qui m'intéresse dans le film, c'est qu'il me semble que là-dessus, Park Chan-wook arrive à faire quelque chose qu'il a reproduit aussi, à mon sens, avec son dernier long métrage, que très peu de metteurs en scène parviennent ou sont parvenus à faire, mais que très peu essayent d'accomplir, c'est d'atteindre ce que je ne sais pas appeler autrement que comme une qualité mythologique du récit. C'est-à-dire, quand tu parlais, toi Alexis, de « tiens, je ne sais pas à quel genre il appartient », c'est un récit mythologique dont le lore, dont le background n'est que le sien, qui invente ses codes et qui a un rapport à la faute, ses conséquences, et donc finalement au fatum, à la destinée des personnages.
Moi, on est sur une tragédie grecque. Hein.
Oui, mais qui pour moi... à une forme, encore une fois, je n'ai pas d'autres de meilleurs termes qui me viennent en bouche, de qualité mythologique. Et typiquement, la résolution de cette affaire, c'est aussi ce qu'il peut y avoir d'adolescent, c'est que quand t'es gamin, je veux dire, ça te rappelle ce que t'as découvert a priori il y a pas si longtemps, il y a quelques années, que ce soit les récits d'Homère ou la mythologie grecque ou la mythologie romaine, enfin... tout ce que tu veux, ça te rappelle ces grands récits-là, et notamment la grande scène de résolution, dont je dirais rien ici, où le héros est mis face à la clé de l'énigme et au sens de sa destinée et à la punition qu'il va, enfin au choix qu'il doit faire et à la forme de châtiment qu'il va ou non s'imposer. Pour moi, on est dans quelque chose qui est assez proche de ça dans le récit. Et là où, encore une fois, ça fonctionne très bien, c'est dans certains effets de mise en scène qui ne sont pas que pop ou que des références pop. Typiquement, on vous a parlé de ce long travelling qui émule les Beats and Mall comme Street of Rage.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ouais.
Bah c'est tout à fait vrai, c'est la même composition de cadre, la même composition
double
de plan.
Dragon.
Oui, ou double dragon, absolument. Mais sauf qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans ces jeux-là, qu'est-ce qui fait bouger la caméra ? C'est le joueur avec sa manette. Il l'avance et la caméra bah, fait ce travelling latéral. Donc, tout simplement, le mouvement de caméra, il est synonyme du pouvoir, alors là, pas du spectateur, du pouvoir du joueur. Or ici... bah, c'est Park Chan-wook qui fait bouger la caméra. C'est-à-dire que paradoxalement, devant ce truc qui devrait être quelque chose qui te donne plein d'adrénaline et où tu as un sentiment de puissance, à l'inverse, là, toi, spectateur, tu as un sentiment d'impuissance parce que tu ne sais jamais ni à gauche ni à droite du cadre dans quel sens on va aller et ce qui va survenir. Et justement, il me semble que Park Chan-wook va comme ça miner ou déminer un petit peu toutes les grandes étapes du récit de vengeance, du film de vengeance, pour revenir à quelque chose d'antérieur où effectivement le protagoniste est impuissant, miné par une erreur de jadis ou par une décision dont il n'avait pas pu appréhender comment elle allait lui revenir en pleine figure. Et c'est ça aussi qui rend le film, je trouve, aussi fort, c'est que et peut-être plus encore quand on est jeune, on a une sensibilité pour ces récits comme ça très mythologiques. À mon sens, il y en a un autre qui a aussi réussi à le faire récemment, c'était Lanthimos avec la mise à mort du cerf sacré, où là aussi il recrée un univers presque ex nihilo où il est question de faute, de choix et où se voilà où tout d'un coup on a une espèce de connexion comme ça avec des récits premiers.
Moins facile d'accès.
Oui, tout à fait.
Il y a Arthur. Il y a un truc aussi, je pense, qui joue sur l'adolescence parce que on a tous à peu près 30 ans. On va dire ça comme ça. Mmh. À peu près.
30 ans, 130 ans, au final. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu pareil?
Il y a quelque
130
chose.
130 is the nouveau 20.
The new 20. Il y a un truc qui se joue. Je pense aussi que dans les années 90 et 2000, il y a eu la mode, encore aujourd'hui un petit peu, mais quand même beaucoup moins, de ces films qu'on appelait films à plot twist. Vraiment, quand j'ai cherché, hein, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que quand on prend la liste de, je vais pas les citer parce que du coup, si je vous les cite et que vous avez pas vu, bah du coup, vous attendrez un plot twist.
Les films avec de gros retournements de situation, quoi.
Oui, pardon, si vous connaissez pas plot twist, effectivement, c'est un moment où il y a un gros retournement de situation qui change un peu toute la lecture du film.
What
toute la lecture
a twist
de... Voilà. Dans les années 90, il y en a quand même un sacré paquet et Oldboy s'inscrit un peu là-dedans.
Comme par exemple Cyrano de Bergerac.
Oui, tout à fait. Oui. Quand tu t'y attends pas quand il fait un pic, un cap, ouais, c'est ça.
Ah bah oui, mais c'était votre nez. Mais oui.
Non, et je pense que ce qui fait qu'il a cette valeur-là de film adolescent, en plus de tout ce que vous avez dit, c'est que le plot twist a quelque chose de fascinant quand on est jeune cinéphile, c'est qu'on se dit waouh, depuis le début, il y avait ça et je l'avais pas vu venir. Les grands films sont pour moi des films dont le plot twist ne gêne pas des deuxièmes ou des troisièmes ou des quatrièmes visionnages. Il y en a, qu'on ne va pas citer, quand on connaît le retournement de situation, bah, le film n'a plus aucun intérêt. Ce n'est pas le cas de Oldboy. Parce qu'il y a toujours un moment où tu peux t'accrocher à la mise en scène, à la construction, au jeu absolument incroyable de Choi Min-sik. Mais quand on est adolescent, moi je me souviens, j'ai vraiment eu un premier choc de me dire « Oh, waouh, ah ouais, d'accord. » C'est pas juste la violence, c'est pas juste les bastons, c'est pas juste ça. C'est un moment où tu te dis « Ah ouais, le scénario peut aller jusque-là, dans cette manière de te mener par la baguette. » Moi, je pense que c'est peut-être un des plus gros plot twists de l'histoire du cinéma de ces 20-30 dernières années.
Il n'empêche que le film a un tout petit peu vieilli, parce qu'en fait, il s'inscrit vraiment dans ce genre de film. Pour moi, il est comparable à Fight Club. Tout le monde sait, pas la fin forcément de Fight Club, mais tout le monde sait que Fight Club est un film à twist. Ça fait partie des plus connus. Et en fait, ils ont les mêmes défauts des films des années 2000, notamment, et c'est pas sur l'écriture du twist, mais sur cette voix off qui vient t'induire en erreur. Et là, la voix off est, comme dans Fight Club et comme dans d'autres moments, un peu pompeuse. Et ça, c'est au revisionnage peut-être le seul truc qui m'a un peu gênée, notamment au tout début avec une scène d'ascenseur. Mais on fait bien de dire qu'il s'inscrit vraiment dans son époque. Il y a des films qui sont complètement intemporels, c'est pas le cas d'Oldboy. Si on sait pas de quelle période il est, tu le regardes, tu fais « début des années 2000 !»
Ouais.
Oui.
Comment t'expliques toi, Alexis, que Oldboy est devenu un classique instantané, en tout cas, et pourquoi l'international des poulpes désapprouve?
Alors, l'international des poulpes, j'ai pas envie de parler en leur nom. Les pauvres, ils sont que deux. Mais,
ils sont quatre, non?
Waouh! Wow,
bah, trois depuis Oldboy.
Ah, merde.
Non, sur le tournage, ils en étaient quatre.
Il y avait quatre poulpes.
Ah, il l'a tourné quatre fois.
Ouais. Ouais.
Wow, l'indigestion de fou. Bref, si vous n'avez pas vu le film, je vous dis pas de quoi on parle. Faut le voir. Non, mais en fait, je pense que si Oldboy était un classique instantané, c'est précisément pour ce que vient dénoncer Sophie. C'est que le film, il sort à un moment où, stylistiquement, il peut pas être plus à l'heure de son époque que ça, quoi. C'est-à-dire que tout transpire le cinéma du milieu des années 2000 dans Oldboy. Et en plus, il y a la petite touche de dépaysement et d'originalité qui vient du fait qu'encore une fois, c'est un film sud-coréen. Ils n'ont pas le même rapport au code de notre cinéma. Ils n'ont pas le même rapport à ces gimmicks-là. Ils ne les manipulent pas de la même manière. Donc on est à la fois dans un univers qui est très familier, qui est pile poil dans les codes de l'époque. Et en même temps, le film nous laisse sur un sentiment de dépaysement, d'originalité, nous déconcerte, nous stimule. Et je pense que c'est pour ça que le film est devenu un classique instantané. Et puis, une fois qu'un film est devenu un classique, quand bien même il vieillit, quand bien même il n'est plus vraiment en phase avec le monde d'aujourd'hui, un classique reste un classique. Donc, c'est là aussi où la carrière de Park Chan-wook a été complètement transformée par Oldboy. C'est qu'à partir du moment où on réalise un film comme ça, de toute façon, le nom est inscrit dans l'histoire du cinéma. Et c'est peut-être ça aussi qui a été difficile pour lui, encore récemment avec son dernier long métrage en date qui est Decision to Live, qui est un film, je trouve, qui a beaucoup de problèmes d'écriture, mais qui a par contre encore une fois un sens de la mise en scène et du découpage qui est absolument dingue. Mais tu sens qu'il y a encore un petit peu le fantôme de la trilogie de la vengeance qui est derrière, et que Park Chan-wook, il essaye de se démener comme un beau diable pour accoucher d'un film qui puisse avoir un impact similaire. Et je pense qu'il n'y arrivera pas, et c'est ça qui rend sa filmographie super intéressante.
On peut noter que le film a eu cette importance qu'il a été remaké.
Oui.
Pardon, excuse-moi, réaction viscérale.
Le remake qui, lui, pour le coup, a pas laissé une trace mémorable. Je l'ai pas vu, donc je vais pas le juger. Mais
déjà, le projet n'a aucun sens. C'est-à-dire que Spike Lee qui s'aventure sur ce terrain-là, c'est surprenant.
Attends, il faut bien faire tourner son école de cinéma, et je pense que ça va pas chercher beaucoup plus loin.
Ah, c'est un projet de commande, c'est pas le sien. Hein.
Oui, c'est pas son projet.
On est venu,
au sens strict du terme, c'est un projet de
commande. Pour réaliser ce film-là, ouais.
Avec Josh Brolin et Elizabeth Olsen.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Oh là là. Cata. Moi, ce que je conseille aux gens, en tout cas, si jamais vous ne l'avez pas fait mais que vous connaissez le film, je vous conseille de lire les mangas. Ils ont été réédités il y a 3 ou 4 ans, je crois, en 4 tomes chez Naban. Et on n'en a pas parlé, hein, mais je sais qu'en tout cas, pour le mangaka, pour Garon Tsuchiya, c'était une adaptation des Contes de Monte Cristo. Franchement, à la lecture, c'est vraiment un manga qu'on n'en lisait pas à l'époque.
Et profitez surtout de la ressortie en salle pour aller voir Oldboy sur grand écran. Ça vaut vraiment le coup de le voir dans un cinéma pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est donc un film de Park Chan-wook avec Choi Min-sik et Yoo Ji-tae. Et comme ça, vous pourrez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt gober un poulpe vivant ou vous prendre un coup de marteau sur le coin de la gueule.
Le poulpe. J'ai le sentiment que je vais en ressortir avec moins de problèmes.
C'est possible. Et pour la carte blanche, c'est pas exactement une carte blanche qu'on va faire. On va parler ensemble. Enfin, on voulait en parler, donc on va pouvoir te le dire maintenant parce qu'on s'était concerté un peu avant, parce que nous sommes un peu soucieux pour Arthur.
Hein?
Vous savez que Arthur
pourquoi
peut avoir. Attends, mon chat, t'inquiète pas, ça va. Recule. Ah non, lâche. Aïe. Ouais, merci. Arthur parfois a des compulsions cinématographiques, notamment par exemple quand il doit aller voir un film de Philippe Lachaud, il regarde
toute la filmographie de Philippe Lachaud. Bon, alors évidemment, ça crée des désordres et des troubles psychologiques et psychomoteurs assez importants, parfois qui peuvent aller jusqu'à des soucis d'incontinence, mais ça, c'est Philippe Lachaud, c'est autre chose.
Ouais.
Ah bon,
non,
bon.
Bah, le, ça se dit pas, et, ça.
Ah pardon, excuse-moi. Non, bon, on coupera, oui. Bon, toujours est-il que Arthur s'est lancé un défi qui nous paraît pas très très raisonnable.
Que je me suis lancé tout seul comme
un grand. C'est que avant le festival de Cannes, qui est donc dans deux mois, un peu plus de deux mois maintenant, Arthur s'est lancé pour défi de voir toutes les Palmes d'Or.
Ouais, mais alors, toutes les Palmes d'Or, calmons-nous, j'en ai déjà vu 30 sur 100.
Et il t'en manquait ?
Bah, donc 70. 70 à peu près. Mais en fait, il faut savoir que. Pourquoi... Oui Non.
Vous avez entendu, il y a un gobelin qui vient de passer. Mais c'est, vous avez des gobelins chez vous parce qu'il faut.
Il y a aussi le gobelin Vincent Lindon. J'adore. Oui, en fait. Oui, j'ai ce truc à chaque fois où je sais pas, j'ai envie d'agrandir ma cinéphilie, j'ai envie de me sentir plus légitime, qu'importe, j'aime regarder des films et c'est un truc qui est quand même un exercice fascinant. J'ai cherché un peu des listes de toutes les palmes, j'ai cherché un peu des gens qui avaient fait cet exercice-là et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Alors, peut-être effectivement, parce que c'est un peu maso de vouloir rattraper 100 films.
Parce qu'on a la flemme.
Voilà.
Mais c'est surtout que,
comme on l'a dit tout à l'heure, la Palme d'Or, il y a quelques Palmes d'Or qui sont restées à la postérité et il y a des Palmes d'Or qui ont été oubliées à juste
alors,
titre.
Grave, je suis mille fois d'accord. Parce que du coup, il faut savoir
grave,
que
c'est pas une Palme d'Or, c'est
titre. Ah putain. Aïe. C'est pas ma main.
One brain.
Oui, c'est
pas
vrai.
Ma blague.
En fait, donc j'ai vraiment bien fait mon truc. Si vous voulez savoir, je me suis fait un doc Excel où je me suis fait toutes les Palmes d'Or que je me suis noté dans l'ordre. Et j'ai mis
le
en
type
rouge.
A imprimé une page Wikipédia, mais il veut nous dire que déjà il bosse, tu vois.
J'ai mis en rouge toutes celles qui étaient disponibles sur la plateforme du streaming, toutes celles où je vais devoir aller chez JM Vidéo pour aller louer des DVD, celles où je vais devoir passer par l'illégalité malheureusement.
Oui.
non.
Et encore,
depuis
Arthur, quoi d'autre
depuis 5 jours, j'en ai rattrapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans le lot des 8, il y en a quand même 2-3 qui sortent déjà franchement du lot. Donc c'est qu'il y en a quand même malgré tout qui sont des grandes palmes.
Et ça vous procure un plaisir ? Est-ce que vous en parlez avec vos parents ?
Alors, si jamais l'envie vous vient de faire la même chose que moi, sachez que je pense que les palmes de 1947 ne sont pas très intéressantes. Fun fact, savez-vous qu'en 1947, il y a eu 11 palmes d'or ?
Parce qu'il n'y a plus de festival.
Si. Parce qu'il y a eu plus de 100 films proposés. Donc ils ont donné 11 palmes. Mais à l'époque, ça s'appelait le Grand Prix. Mais ils ont donné 11.
Et vous les avez toutes regardées, Arthur ?
Non, il m'en manque encore un peu quelques-unes. Mais pour dire
c'est
que du coup,
sérieux,
ça n'a pas la
ça.
Même valeur symbolique de la Palme d'Or. Pareil pour. Il me semble qu'en 1949, il y a eu 6 palmes qui étaient des palmes pour. Palme d'or du meilleur film animé qui revient donc à Dumbo, Palme d'or du meilleur film français, Palme d'or du meilleur film étranger. Donc en fait, il y en a 6.
Comme quoi, avant le général de Gaulle, ce pays tournait quand même pas bien.
Et Dumbo, c'est vous l'entendez dans votre sommeil?
Bon, allez, laissons-le finir, donc, laissons-le finir, ça va durer les plombes.
Juste, si ça vous intéresse, je le partage un peu sur mes réseaux, sur mon compte Instagram et sur Letterboxd et j'en ferai, je pense, un article à la fin.
Et tu m'étonnes que le type voulait faire une chronique, quoi.
Bah oui, bien sûr. Parce
suivez-moi
que...
pour voir les films que je regarde.
Et bah oui, en fait, moi je fais ça que pour les followers. Voyons, tu me connais pas ou quoi ?
Et c'est quoi les films ?
Et
alors, j'ai commencé par.
Et vos amis approuvent ce type de comportement ?
En vrai, pas du tout. j'ai commencé par regarder Le goût de la cerise, qui est absolument incroyable, film de Kiarostami, qui je connaissais pas forcément très bien son cinéma et c'est un petit peu exigeant dans le sens où il faut quand même.
Aimer les cerises.
Il faut s'accrocher. C'est un cinéma qui te prend pas pour un idiot et en même temps c'est extrêmement valorisant quand on comprend, quand on est séduit, quand on est accroché, c'est vraiment très fort. Mais j'en ai vu quelques-unes qui sont vraiment anecdotiques, Crossfire, la symphonie pastorale, j'ai vu un western de 56 qui s'appelle Friendly Persuasion qui était vraiment pas ouf. Par contre, All That Jazz, évidemment, que vous connaissez tous, que je n'avais jamais vu avant, qui a un petit peu vieilli sur la représentation.
Bah oui, mais...
Oui, bah ok, un petit peu vieilli, hein. Moi j'ai voulu regarder...
Elle a 44 ans le film aussi,
ouais,
donc...
Si All Boy vieillit, ça vieillit aussi.
Tout à fait. Non, par contre, il y a un film qui n'a pas vieilli, qui m'a foutu une énorme claque et qui m'a donné envie d'aller vers ce cinéaste, même si évidemment que je voulais aller voir Soy Cuba depuis longtemps, mais le film de Mikhail Kalazozov qui s'appelle Quand passent les cigognes, qui est mais monumental. Mais vraiment, je pèse mes mots, monumentale. C'est-à-dire que le gars a littéralement inventé des procédés filmiques, il a inventé des procédés de montage, et il a même créé à un moment une manière, pour la faire courte, il y a un moment où le personnage essaye de rattraper sa conjointe dans des escaliers, il a créé un système de poulies et de grues pour que le caméraman, parce qu'à l'époque la caméra n'est pas fixe, on est en 57, pour que le caméraman puisse filmer en tournant dans cet escalier en colimaçon pour être pile à la hauteur du personnage qui monte à chaque fois. Ça n'existait pas, et visuellement c'est sublime. Et en plus, histoire absolument tragique, puisque c'est l'histoire d'un homme qui va faire la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a bof envie, et en fait, sa conjointe. Bah, parce que et c'est un peu dangereux, pareil. Sa conjointe va se remarier avec son cousin, pensant qu'elle ne le reverra jamais, et c'est tragique et c'est absolument magnifique. Donc voilà, sur les 8 que j'ai vus pour l'instant, c'est celle-là que je retiens, et je vais même vous dire que du coup j'ai commencé à les classer petit à petit, j'ai mon classement, et celle-là rentre franchement d'office dans le top 5, alors qu'on parle quand même d'une liste où il y a déjà La Leçon de Piano, Sailor et Lula, Conversation Secrète, Rencontre Brève, Apocalypse Now, Underground. Bah, il y a quand même des palmes d'or qui sont quand même sacrément colossales. Nicolas, toi qui faisais des blagues sur La Palme d'Or, on se souvient pas, je suis désolé. Les Parapluies de Cherbourg, Parasite, Dance of the Dark. Tu me fatigues.
Et ben on va se revoir la semaine prochaine du coup.
Bah j'espère que d'ici la semaine prochaine j'en aurai vu au moins 10, parce que sinon à ce rythme là je suis dans la merde, je vais pas tenir le rythme jusqu'à mai.
Vous prenez bien vos pilules d'ici la semaine prochaine.
Non mais ce qui me fait suer, c'est que dans les soirées que je rattrapais, j'ai des trucs genre Dipan, Amour.
Ah non, bah non, frère, non.
Ah bah si. c'est pas ce que tu vas rattraper de pire, mon chéri.
Ah ouais?
Mon alors, chéri,
c'est certainement pas ce que tu vas rattraper. Ouais, de fou. même chose. C'est pas ce que tu vas rattraper de pire, mais c'est quand même déjà un peu gratiné. La fin de Dipan, waouh.
Ouais. C'est... J'ai pas hâte.
Ouais, non.
Mais je le ferai. Écoute, pour l'amour de la science.
Pour la beauté du geste, ouais.
Absolument.
Eh bien, bon courage. Je crois qu'on peut tous souhaiter un bon courage à Arthur.
Bon courage à la semaine prochaine. Vous oubliez pas, je vous donne votre petite ordonnance. Ça fera 150.
Bon, et puis.
C'est cher.
Bah, oh, tu vois, t'as vu qui je suis là.
Bon, et puis, si jamais ça va pas, tu nous dis. Hein.
T'hésites pas, tu nous envoies un petit WhatsApp. Bref, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, pour nos Josianes adorées, Sophie, qu'est-ce qu'elles vont avoir dans leurs petites oreilles
Elles vont aller à Wisteria Lane revoir ou voir découvrir les héroïnes désespérées, j'ai envie de dire, de Desperate Housewives. Non, c'est nul, on est fatigué et tard. Et grâce à l'amour d'Anna Godefroy pour cette série, on va parler de ce qu'est être une vraie fan ayant grandi avec une série culte et comment ça devient une part intégrante de notre vie, parce que toujours en fond. Et je trouve que c'est absolument fascinant comme rapport. Et on va avoir aussi Alexis, qui est autour de cette table, qui va nous dire pourquoi Desperate Housewives, ce n'est pas qu'une série pour meufs, contrairement à ce que dit le marketing, parce que le marketing, parfois, il a tort. Et comment c'est un parfait pastiche de soap opera et de telenovelas mêlé à une très, très, très jolie intrigue policière tout au long des 8 saisons. Bref, c'est passionnant. Et en plus, le premier épisode est sans spoiler. Donc même si vous n'avez pas vu la série, ben vous pouvez découvrir tout cet univers.
Si vous voulez tout savoir sur Desperate Housewives, foncez vous abonner pour devenir vous aussi une Josiane. D'ailleurs, on pourrait en merch faire un petit « Je suis Josiane ».
Oui, bah je suis une
Josiane. Bah oui, oh et oh, ça va.
Avec les 150 euros de tes séances de psy à la con. Je suis fatigué, je veux dormir. Allez.
Vous dormez bien en ce moment, Alexis?
Non.
Allez, la suite vendredi, il sera question de règles félines, de loto et d'un vieil auteur rance. Bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.